Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons plonger dans la catéchèse d'aujourd'hui. Cette semaine, nous allons parler des anges et des archanges. Et puis, nous parlerons de l'orgueil et de l'humilité, étant donné que, on va le voir, ce qu'ont vécu les anges, ce qu'ils vivent, eh ben, cela nous concerne directement. Alors, confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la reine des anges. La reine des anges. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'ils existent, les anges ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'on peut, par l'expérience humaine, j'allais dire, dire qu'il y a des anges qui existent ? Eh bien, c'est compliqué, c'est même impossible, sans le secours de la révélation. Pour nous chrétiens, c'est la révélation qui est le fondement de notre foi en l'existence des anges. Déjà, ça c'est très important. Si on vous pose la question, oui, mais comment vous pouvez dire que les anges existent ? Eh bien, c'est parce que c'est ma foi qui me le dit. La foi, c'est quoi ? C'est le dépôt de la foi, c'est la révélation divine. Dieu a révélé, oui, Dieu a révélé non seulement lui-même, mais l'existence du monde angélique. Toute la Bible, de la Genèse, du premier livre de la Bible de la Genèse, au dernier livre qu'est l'Apocalypse, eh bien, toute la Bible nous parle de l'existence, de la présence, et de l'action, de l'agir, de ces réalités spirituelles que sont les anges. Colossiens 1. Le Christ est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, trône et souveraineté, autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui. Il y a donc des réalités invisibles qui existent, qu'on appelle les anges. Et le centre de ce monde angélique, c'est le Christ. Il est le roi des anges. Oui, Marie est la reine des anges. Oui. Alors, qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Ce sont des purs esprits. Vous avez remarqué, comme moi, que nous, les êtres humains, nous sommes des réalités spiritualo-psychosomaticones. C'est-à-dire que nous sommes un corps humain. Nous avons un psychisme, une âme humaine et un esprit humain. Ce qui, d'ailleurs, nous différencie des animaux qui n'ont pas d'esprit. Non. Bien qu'ils soient très très gentils, que nous les aimions, nous les apprécions beaucoup. Hein. Surtout les chiens. Non, bon. Créé ex nihilo, oui, les anges, eux sont des êtres purement spirituels, 100% spirituels. Il n'y a pas de psychisme, il n'y a pas de vie sensible, il n'y a pas de corps. Non, pur esprit. Et lorsqu'on dit pur esprit, on dit intelligence, capacité de connaître. Donc dans la connaissance, il y a de connaître Dieu, bien sûr, de contempler, de connaître. Et volonté, capacité d'aimer, spirituellement, sans passer par, comme nous, vous savez, nous, pour connaître l'arbre qui est devant moi, eh bien, je le vois, l'arbre. J'ai une expérience sensible. Mais comme je suis un être habité par une capacité de connaître spirituelle qu'on appelle intelligence, eh bien, je connais l'existence et un peu tous les tenants et les aboutissants de ce que je vois à travers une expérience sensible. Bon. L'ange, pas du tout. Il connaît sans passer par La réalité sensible. Il l'aime, il a une volonté, sans passer par toute cette expérience sensible de l'amour que nous expérimentons, nous, tous les jours, sans cesse. Ce sont donc des créatures 100% spirituelles, créées bien sûr ex nihilo. Petit rappel de la doctrine de l'Église sur la création, nous sommes créés ex nihilo, c'est un mot latin, ça veut dire à partir de rien. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin d'une matière préexistante pour créer. Il nous crée. Point. Et nous sommes. Il nous crée de par sa volonté, dans la puissance de sa parole créatrice, qui est sagesse. Il nous aime, nous aimons et il nous crée. Voilà. Avant, nous n'existions pas. Nous n'étions pas. Et d'un coup, par la seule puissance, par la seule volonté de Dieu, nous sommes. Ex nihilo, de rien. Non seulement nous, mais l'univers, et donc l'univers, non seulement visible, mais invisible. Donc, les anges sont des créatures 100% spirituelles, intelligence, volonté, créées ex nihilo, donc à partir de rien. Ce sont des créatures donc personnelles, ce sont des personnes, une personne angélique. Nous, nous sommes des personnes humaines, et le Fils de Dieu, Jésus, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. En Dieu, il y a combien de personnes? Trois personnes. Combien de Dieu? Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. Ça fait combien de Dieu? Ça fait un. Combien de personnes divines? Trois. Jésus, c'est une personne humaine ou une personne divine? Personne divine. Bon. Et sa nature humaine, c'est une nature humaine. Ce n'est pas une personne humaine, Jésus, attention. Nous, nous sommes une personne humaine. La Vierge Marie est une personne humaine. Les anges, personne angélique. Immortel. Immortel. Et les anges, ça veut dire, ça vient du grec agelos, signifie le messager, l'envoyé. Ça, c'est en grec agelos. Le mot hébreu malak signifie plus précisément délégué ou ambassadeur, ce qui exprime une fonction de médiation entre Dieu et les hommes. Bien sûr, Dieu n'a pas besoin de médiateur, mais oui, Dieu est Dieu. Sauf que il donne aux créatures la joie et le pouvoir d'être ses ambassadeurs, ses messagers. Dans tout ce que Dieu fait dans sa création, le monde visible et invisible, il va faire de nous des petits médiateurs de lui. Dieu aime la médiation. Et bien sûr, Jésus sera la plénitude de la médiation. Bon, mais déjà, avec le monde invisible et les anges et les archanges, nous verrons dans la prochaine catéchèse, nous nous attacherons spécifiquement aux archanges, Michel, Gabriel, Raphaël, qui sont des anges, des créatures, comme je vous l'ai dit, donc créés ex nihilo, des êtres de nature purement spirituelle, intelligence, volonté, des créatures personnelles et immortelles, des serviteurs de Dieu, envoyés, messagers, délégués, ambassadeurs. Comme dit le psaume 103, bénissez le Seigneur, vous ses anges, force d'élite au service de sa parole, qui obéissez dès que retentit sa parole. La lettre aux Hébreux nous dit au premier chapitre, est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut? En parlant des anges, envoyés par Dieu à la rencontre des hommes. Alors, ces chers anges, créés, ils ont été créés non pas dans la vision béatifique, mais ils ont été créés dans un état qui leur permettrait de choisir pour toujours leur vie. Quand Dieu crée une créature spirituelle, c'est avec la liberté. La liberté est une propriété intrinsèque de l'intelligence et de la volonté. Oui. Plus on vit à fond, plus on est intelligent, plus on est aimant, plus on devient libre, plus notre liberté gagne. Mais nous avons déjà, en étant créés, la liberté. Donc, pour pouvoir choisir librement, pour pouvoir aimer librement et non pas sous la contrainte, choisir qui, quoi, est-ce? Eh bien, choisir le Seigneur. Et voilà que nos chers anges, créés par le Seigneur, vont devoir, pour parfaire leur nature, pour parfaire leur vie angélique, ils vont être mis devant un choix à poser. Ils sont créés dans la grâce sanctifiante, avec le don de la foi, non pas la vision béatifique. Et l'ange ne peut pas voir Dieu face à face. Dieu est Dieu, l'ange est un ange, il a sa nature angélique. Mais pour basculer dans le face à face, il faudra qu'il choisisse librement, avec amour. Qu'ils choisissent le Seigneur et son œuvre. Alors les pères de l'Église, la tradition de l'Église nous dit que Dieu a comme présenté, comme dans un flash, vous voyez, une manière que Dieu connaît pour venir à la rencontre de ses anges, leur donner suffisamment de connaissances pour qu'ils puissent choisir avec amour et librement non seulement le Seigneur mais son œuvre. Alors, bien sûr, vous imaginez que les pères de l'Église ont beaucoup médité, contemplé, réfléchi, écrit là-dessus. Et la tradition de l'Église nous dit que les anges ont été mis devant une alternative, un choix, une décision. Soit abonder dans le sens de la proposition divine. C'est-à-dire choisir Dieu, lui obéir, donner un consentement libre, dire oui, dire fiat, dire Seigneur, je t'adore, je suis ton serviteur, je t'adore et je suis créé pour être ton petit serviteur et être heureux de l'être et de faire tout ce qui est mon possible en tant qu'ange pour être juste. Serviteur, ton serviteur et serviteur de tes œuvres, de ta volonté. Et alors, lorsque Dieu a présenté suffisamment de connaissances pour que les anges comprennent qu'il n'y avait pas que le monde invisible, mais un monde visible qui était dans le dessein de Dieu, et au cœur de cet univers visible, il y aurait non seulement le soleil, les étoiles, la lune, mais la Terre, les milliards de galaxies, 1 000 milliards de galaxies peut-être. Et qu'au cœur de ces 1 000 milliards de galaxies, il y aurait une petite planète, un petit lieu, un petit milieu vital où serait créée une créature bizarre, un horizon entre deux mondes qu'on appelle l'être humain, homme et femme, des êtres spirituels. Mais pas que. Avec un peu de glaise, avec de la chair, des os, avec un psychisme. Alors certains diront un animal raisonnable. Mais moi, personnellement, j'ai jamais vu d'animaux raisonnables. J'ai vu des êtres humains plus ou moins raisonnables. Mais qui ont un psychisme, bah comme les êtres humains, comme les animaux. Ah, ils ont aussi un psychisme, les animaux, ça c'est sûr. Les passions. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc, être humain, Si fragile, si fragile. Et pourtant réalité spirituelle. Et voilà que c'est cette créature humaine que Dieu choisit pour faire alliance, pour déverser sa vie trinitaire et pour intégrer aussi le mystère de l'incarnation. Je n'entre pas dans les grandes questions théologiques. Est-ce que s'il n'y avait pas eu la faute, est-ce que le Fils de Dieu se serait incarné, oui ou non? Bon, je rentre pas là-dedans. Mais quand même, comme tout apparaît en un seul instant dans le mystère de Dieu, il y a le mystère de l'incarnation. Il y a donc un amour de prédilection de la part du Seigneur pour l'être humain. Et voilà que les anges ont eu suffisamment de connaissance de cet amour de prédilection de Dieu pour l'être humain pour choisir d'être serviteurs de cette œuvre grandiose, absolument grandiose. Dieu est fou amoureux de sa créature humaine, frères et sœurs, complètement fou. Dieu est Dieu, pur esprit, Dieu. Qu'est-ce qu'il avait besoin de créer des êtres humains comme nous? Non mais franchement. Ah bah Dieu est fou. Et de faire alliance avec nous. Nous qui avons l'esprit si faible, si un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on dit oui, un coup on dit non, un coup on veut bien, un coup on veut plus. Si faible à la détermination. Si pécheur, si blessé, si fragile. Un enfant, c'est si fragile. Un vieillard, c'est si fragile. C'est fou comme on est fragile, frères et sœurs. Peut-être encore plus la génération dans laquelle nous sommes. Dans ce monde de fous. Dans ce monde de fous, Dieu est fou de sa créature. Alors voilà que les anges ont eu, encore une fois, suffisamment de connaissances pour dire, est-ce que tu veux bien servir le Seigneur et son œuvre dans ce qu'il veut faire avec l'être humain et à travers l'être humain, dans l'univers visible et invisible. Car Adam et Ève étaient créés rois de l'univers. Mais que sur le monde visible? Non, sur le monde invisible aussi. Ah bon? Ah oui. On ne se rend pas compte de la dignité d'Adam et Ève. On ne se rend pas compte à quel point ce que ça veut dire roi de l'univers. Il n'y en a qu'un seul roi, c'est Dieu. Oui, mais quand Dieu vient faire alliance avec sa créature chérie qu'est l'être humain, tant qu'il reste dans la grâce, dans la divine volonté, ça va, mais s'il s'en va, c'est là que c'est le chaos. Mais comment ça se fait qu'il y ait ce chaos dans l'être humain? C'est qu'en amont, il y a eu une déflagration impressionnante dans le monde angélique. Car voilà que une partie des anges va donner sa préférence, va dire oui à Dieu de ce qu'il connaît dans la nuit de la foi. Encore une fois, ils ne sont pas dans la vision béatifique, ils sont dans la foi. Mais la foi, c'est de connaître Dieu tel qu'il se révèle. Alors ils ont eu suffisamment de connaissances. Car pour dire, pour aimer, il faut un minimum de connaissances. Mais ce n'est pas la connaissance qui mesure l'amour, heureusement. Mais il faut un minimum. Bon, alors voilà qu'une partie des anges va dire oui dans l'amour. Et alors ceux-là, les anges qui disent oui dans l'amour, eh bien la grâce va venir les soulever et les prendre dans la béatitude du ciel. Ça y est, ils voient Dieu face à face, à tout jamais, pour toujours. Désormais, plus de péché possible, ils ne peuvent se reprendre, c'est fini. Un choix qui détermine l'éternité. Contrairement à la différence de nous qui, nous, à 7 heures du matin, on se lève, on écoute Radio Maria, on dit oui Seigneur, je te donne ma journée, oui, puis à 9 heures, on arrive au boulot et là. Hein? On a déjà envie de rentrer chez soi. Hein? Nous, vous voyez, une journée de 24 heures, c'est impressionnant quand même. Nous, on peut se reprendre. On peut passer du oui au non, du non au oui, en passant par le peut-être. Bref, vous avez compris. Et puis, il y aura ce dernier choix de notre vie qui va déterminer notre éternité. Pour toujours, sans retour possible. L'ange, c'est un choix pour toujours. Alors, tu fais quoi, Lucifer? Lucifer, il fait quoi? Lucifer, porteur de lumière. Alors, créer bon, car Dieu ne crée que des choses bonnes. Toute la nature est bonne dans le sens qu'elle est créée par Dieu, et Dieu, quand il crée, c'est bon. Donc l'être des anges est bon. Mais la vie, il y a une différence, une distinction très importante entre l'être et la vie. L'être, donc c'est de l'ordre de l'être. Quand Dieu crée, c'est de l'être. Voilà. L'être ange. Alors celui-là, il est bon. Mais comme c'est une personne angélique libre qui doit poser son choix, dans sa vie d'ange, il doit poser un choix. Que vas-tu faire? Et alors, selon le choix, c'est soit la béatitude éternelle, soit l'enfer éternel. C'est-à-dire qu'une partie des anges va dire non. Pour s'exalter soi-même, pour se préférer soi-même, pour préférer être serviteur de, pas Dieu et de son œuvre, mais de ce qu'il pense être mieux, plutôt que de choisir la confiance, plutôt que de choisir un amour de préférence, un abandon, bien sûr, parce qu'il y a la foi, encore une fois. Ce n'est pas la vision béatifique, mais il y a suffisamment de connaissances. Ils se disent, bon, ben, moi, j'ai pas envie. Je veux pas. Je ne veux pas servir Dieu et je ne veux pas servir Dieu dans ce dessein bienveillant qu'il me montre avec des êtres humains si petits, si fragiles. Moi, ange, créature purement spirituelle, je vaux beaucoup plus que ça. C'est moi qui mérite que Dieu fasse alliance avec moi, mais pas avec ça, pas avec ça, vous voyez. Ça, c'est l'être humain, oui. Alors, il y a une partie des anges qui va dire non. Non serviam. Je ne sers pas, je ne servirai pas. C'est donc un péché d'orgueil, une désobéissance, dans le sens, j'ai bien compris ce que tu voulais, mais je veux pas. J'ai pas envie. Je préfère autre chose. Je préfère ma propre gloire. Je préfère me servir moi-même. Je préfère m'ériger moi-même plutôt que de servir. Il y a donc dans une partie des anges une révolte, une rébellion, une opposition à Dieu pour toujours. Et alors, ça s'appelle la damnation éternelle. Il refuse l'amour pour toujours. Il se concentre sur lui-même pour se rebeller, telle une blessure à la main après avoir cogné contre un mur. L'ange, désormais, se heurte éternellement contre l'amour. Il se blesse, il se saccage. Il demeure dans la haine éternelle, c'est-à-dire non-stop, pour toujours. Il n'y a pas de retour possible. Les démons ne vont pas se convertir. Et alors, on va le voir, ça va produire un chaos, un désordre. D'abord dans le monde angélique, et puis dans tout le monde non seulement invisible, mais visible. Dans l'univers. On va voir, bien sûr, avec le livre de la Genèse et Adam et Ève qui vont être tentés par le démon, symbolisé par le serpent, qui était l'animal le plus rusé que Dieu ait créé. Mais voilà que les anges qui ont dit oui, je vous l'ai dit, ils ont deux grandes joies. La première joie, c'est d'être dans la vision béatifique, bien sûr. C'est Jésus qui nous dit que les anges, les bons anges, sont dans la vision béatifique. Dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, il nous est dit, c'est Jésus qui dit, gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Donc on verra les anges gardiens, ils sont dans la vision béatifique, ils voient Dieu face à face, c'est leur plus grande joie. La vision béatifique, c'est quoi? C'est se baigner dans la connaissance aimante de Dieu. C'est ce qui nous attend, frères et sœurs. Alors bien sûr, la vision de Dieu face à face comble complètement et déborde complètement les capacités d'une créature, qu'elle soit humaine ou angélique. Mais c'est ça, Dieu, c'est débordant, hein? Ça déborde. Alors ils sont plongés en Dieu comme dans un océan. Ça, c'est leur plus grande joie, la première. Et la deuxième qui en découle, c'est d'être au service de Dieu à l'égard des hommes et de l'univers. Les bons anges sont tout heureux de servir Dieu, qu'ils contemplent face à face. Et on voit dans la Bible plein, 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 plein de moments où on voit les anges intervenir. Déjà, dès le livre de la Genèse, après la chute, où il y a donc les anges déchus qui ont blessé nos premiers parents. Mais le Seigneur bannit l'homme et le posta, et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il y a une protection. Dès la chute, les bons anges sont là pour garder le jardin et l'arbre de vie. Le chemin de l'arbre de vie. Autrement dit, le mystère de la croix, l'arbre de vie pour nous, c'est la croix glorieuse de Jésus. C'est un tel mystère qu'il faut protéger. Il faut protéger les hommes. On les voit qui protègent Lot dans des impies de Sodome et Gomorre. Il y a un ange qui vient, un ange du ciel qui vient voir Agar lorsqu'elle n'en peut plus. Et qu'elle se dit, je vais abandonner mon petit. Qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit, là où il était. Ils arrêtent la main d'Abraham. Vous vous souvenez quand Abraham monte avec son fils pour sacrifier son fils. Et que, à un moment donné, l'ange du Seigneur l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. C'est bon, on a vu que tu avais la foi, que tu étais dans un abandon tel que cela te sera compté comme justice. Et puis on les voit qui montent et qui descendent entre Dieu et la terre. Le fameux songe de Jacob. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Ça circule, ils sont vivants. Même si on ne les voit pas. Tout ça, c'est dans la foi. Tout ça, c'est dans la grâce à la révélation divine. C'est merveilleux. Bien sûr que ce n'est pas une révélation ésotérique, hein, je précise, que le monde angélique peut être l'occasion de grandes curiosités et même de péchés pour certains dans le monde ésotérique, dans les milieux ésotériques, avec, ouais, on va connaître les anges, on va rentrer dans un truc. Attention, attention, attention. Nous y reviendrons. Attention. Restons très sobres et tenons-nous à la Bible, à la révélation. Ils conduisent le peuple de Dieu. Il y a un passage magnifique dans l'Exode 23 où le Seigneur dit, voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. Révère-le et écoute sa voix, ne lui sois pas rebelle. Il ne te pardonnerait pas vos transgressions, il ne pardonnerait pas, pardon, vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que je dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange ira devant toi et te mènera chez les Amorites, les Hittites, les Périsites, les Cananéens, les Hivites, les Jébusiens, et je les exterminerai. C'est l'ange qui porte le nom de Dieu en lui et qui est là pour nous accompagner sur notre chemin. Bien sûr, ils annoncent les naissances et vocations, combien de fois dans l'Ancien Testament? L'ange apparaît et annonce la naissance et les vocations de celui qui doit naître. Pensons à Samson, à d'autres. Bien sûr, ça culmine non seulement en Zacharie, mais surtout en Jésus. Ils assistent les prophètes. Rappelez-vous Élie, qui n'en peut plus, qui se couche, qui s'endort. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » La route est encore longue. « Lève-toi et mange. » Plusieurs fois, parce que Élie mange et puis il redort, il n'en peut plus. L'ange vient le réconforter. Il y a des anges du réconfort. Et on verra à Gethsémani un ange venir réconforter Jésus. Il y a des anges du réconfort comme ça, c'est magnifique. Ils sont là au moment où ceux et celles qui tiennent dans la foi et qui sont martyrisés en raison de leur foi, eh bien là aussi, ils sont là pour assister les martyrs. Déjà dans le livre de Daniel, par exemple, l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d'Azarias et de ses compagnons. Il repoussa au dehors la flamme du feu et il leur souffla au milieu de la fournaise comme une fraîcheur de brise et de rosée, si bien que le feu ne les toucha aucunement et ne leur causa douleur ni angoisse. Et puis on comprend, bien sûr, tous les trois qui chantent, Sidrac, Misac et Abdenago, d'une seule voix, se mirent à chanter, glorifiant et bénissant le Seigneur dans la fournaise en disant « Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, qui sièges sur les chérubins !» Ben oui, ils sont là en train de souffler de la brise. « Louez, chantez par-dessus tout éternellement, ange du Seigneur, bénissez le Seigneur !» Et puis, vers la fin de l'Ancien Testament, nous serons donnés les noms des trois archanges. Nous y reviendrons. Je ne m'arrête pas aujourd'hui là-dessus, parce que nous verrons dans la prochaine catéchèse. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, l'ange Gabriel à l'incarnation. Il y a un ange qui vient réveiller les bergers à la naissance de Jésus, rappelez-vous. L'ange leur dit aux bergers, soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste. Il y avait un qui était envoyé, et puis, en fait, il n'était pas tout seul, il y en avait plein, plein, plein. Il y a un ange aussi qui apparaît en songe à Joseph pour l'aider dans son épreuve, plusieurs fois, au chapitre 1, et puis pour l'aider aussi, à travers les songes, à prendre l'enfant et sa mère et à partir en Égypte. Et une fois en Égypte aussi, lorsqu'il s'agit de revenir en Terre Sainte, ce sera un ange qui apparaîtra encore une fois en songe à Joseph, pour lui dire de revenir. Bien sûr, ils sont là auprès du roi des anges, Jésus. Jésus qui sera attaqué par le démon, qui est un ange déchu. Nous allons le voir plus tard. Et puis, mais à la fin des tentations sur le mont des tentations, alors le diable le quitte, nous dit Matthieu 4, et voici que les anges s'approchèrent et il le servait. Je vous ai parlé de l'ange du réconfort de Gethsémani. Il y a des anges au-dessus du tombeau vide, ce qui perturbe un peu d'ailleurs Marie de Magdala et les femmes, les saintes femmes, au jour de la résurrection. Ils sont là, stupéfait devant le mystère de Jésus ressuscité. Mais ce sont les anges annonciateurs de la résurrection. Ils sont présents à l'ascension. C'est un ange. Deux hommes vêtus de blanc. Ils seront là au jugement dernier. Et entre l'ascension et le jugement dernier, il y a toute la vie de l'Église qui bénéficie de l'assistance des anges d'une manière impressionnante. On le voit déjà dans les actes des apôtres, on le voit dans la liturgie, on le voit, j'espère, j'imagine, dans vos propres vies, frères et sœurs. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.